VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Dans le nord du Mali, arrestation de deux suspects en rapport avec l'attaque de Grand Bassam en Côte d'Ivoire qui a fait 19 morts. Opération revendiquée par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le premier suspect, Ibrahim Ould Mohamed, un arabe malien, a été appréhendé à Goundam près de Tombouctou et il serait proche de Kunta Dalla, le cerveau présumé de l'attaque. Le second suspect, Midi Ag Sodak Diko, un Touareg malien, a été détenu à Gossi, au sud de Gao. Plus de détails avec Shahana Takiou, directeur du journal le 22 septembre à Bamako, au micro d'Idriss Fall.
Le premier est un arabe bontain, le second est un tamashek bontain également. Les deux sont des Maliens, mais jusqu'à leur arrestation, ils ne sont pas des gens très connus, ni dans les mouvements armés, ni au sein des populations.
Comment est-ce qu'on est arrivé à faire leur lien avec les attentats de Grand Bassam?
C'est la force Barkhane qui a pu détecter des communications de ces deux personnes arrêtées, lesquelles étaient en lien, s'ils ne se font pas partie des exécutants des attentats de Grand Bassam. Ce qui est sûr, il y a eu des communications qui les compromettent. Ils sont considérés comme suspects, arrêtés. Les enquêtes vont se poursuivre. Celles-ci vont déterminer le rôle en tant qu'acteurs principaux ou complices dans les attaques terroristes de Grand Bassam. Ce qui est sûr, il y a des éléments qui les compromettent. Et c'est grâce aux forces Barkhane que ces éléments-là ont pu être retrouvés.
Shahana Takiou, directeur du journal le 22 septembre à Bamako, au Mali. Controverse au Bénin, le président sortant Thomas Boniaye en deux mandats n'aurait perçu ni salaire, ni prime, ni indemnité de santé, de logement et de résidence, ainsi que tout autre avantage afférent à la fonction présidentielle. Cette révélation du Conseil des ministres du 26 mars fait jaser à Cotonou, où certains s'interrogent sur l'intérêt de la publication soudaine du patrimoine acquis par Thomas Boniaye en 10 ans de règne. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
La révélation est inattendue et certains s'en moquent d'ailleurs dans un conseil de Colibé. Yaïboni, pour résumer, le communiqué du Conseil des ministres aurait travaillé sans bénéficier des avantages financiers et autres qui en découlent. Du bénévolat au service de l'État, titre d'ailleurs certains journaux en ligne qui trouvent que le Bénin aurait bénéficié gratuitement de l'expertise du chef de l'État pendant 10 ans. Le commun des Béninois préfère prendre avec des pincettes cette information jugée inopportune.
S'il n'a pas perçu de salaire et qu'il a laissé ce salaire pour une bonne cause, félicitations. Si on lui doit de l'argent, qu'on le rembourse. C'est tout ce que j'ai à vous dire.
Oui, ils peuvent se permettre de le dire, mais qu'on nous permette nous aussi d'en douter un peu, parce que au rythme où on voit les gens, moi je pense quand même qu'ils ont, parce qu'ils ont un salaire qui vivent bien, salaire ou pas salaire, il s'en va. Je crois que on a dépassé ces questions-là et il faut maintenant penser à l'avenir.
Le président de la République d'abord a une caisse noire qu'il peut utiliser comme il veut. Je crois que le président de la République a d'autres moyens pour utiliser l'argent de l'État comme il veut. C'est son droit absolu en tant que chef de l'État. Par exemple, actuellement, il a voyagé en Afrique du Sud, il a été opéré. C'est l'argent de l'État. Alors, ce n'est pas cette information n'est pas important pour le peuple.
En autorisant la publication de son patrimoine acquis entre le 6 avril 2006 et le 26 mars 2016, Yaïboni entend, selon certains, montrer jusqu'où il était prêt à aller dans son souci de servir la nation béninoise. Le chef de l'État n'aurait qu'un seul compte bancaire à Ecobank Bénin crédité à la date d'aujourd'hui de 10 millions de francs CFA. Il ne disposerait que de 2 villas situées dans le nord du Bénin et de 3 véhicules 4x4 acquis sur fonds propres. Certains doutent de la justesse de cette révélation, pendant que d'autres pensent que le camp présidentiel s'est senti obligé de le faire à cause de Patrice Talon qui a déclaré au lendemain de son élection que le Bénin a une dette intérieure de 300 milliards de francs CFA. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Impasse politique en Guinée-Bissau. La communauté internationale suit de près la situation dans le pays et fait de son mieux pour essayer de promouvoir une sortie de crise. Le point avec notre correspondant à Bissau, Noah Mankali.
Après le Conseil de sécurité des Nations Unies, de l'Union africaine et de la CEDEAO, c'est au tour de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, d'envoyer une délégation à Bissau afin d'en apprendre davantage sur la situation politique dans le pays, a informé dans un communiqué la représentation de cette institution financière en Guinée-Bissau. Le communiqué souligne que Amadou Marou, envoyé spécial de Mamadou Youssoufou, chef de l'État du Niger et président en exercice de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA a remis au président Bissau-Guinée José Mario Vaz une lettre dont le contenu n'a pas été révélé et a transmis une invitation de son homologue nigérien au chef de l'État Bissau-Guinée afin que celui-ci puisse visiter la République du Niger. Amadou Marou, actuel ministre de la Justice du Niger, a rencontré le président José Mario Vaz dans son village natal à Kalekis, situé à 100 km de la capitale Bissau. L'UEMOA continue toujours d'accompagner la crise déclenchée en avril 2012 en Guinée-Bissau et a alerté les autorités du pays pour leur incapacité d'absorber le montant des 35 milliards de francs CFA mis à la disposition par l'organisation dans le cadre du fonds régional intégré aux 8 pays membres de la zone monétaire francs CFA. Nouaman Kali Bissau, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RDC, élection des gouverneurs de 21 nouvelles provinces samedi. Ils sont choisis par les députés des assemblées provinciales et la majorité présidentielle a déjà gagné dans 14 provinces. Au Congo-Brazzaville, 5 candidats d'opposition à la présidentielle du 20 mars, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, appellent à une opération ville morte à partir de demain dans tout le pays. Les opposants contestent la réélection du président Denis Sassou Nguesso et dénoncent les nombreuses arrestations de responsables politiques par les autorités. En Centrafrique, le président élu Faustin Archange Touadéra sera investi mercredi à Bangui, dernier chef du gouvernement de l'ex-président François Bozizé. Ce professeur de mathématiques hérite à 58 ans d'un très lourd passif économique, sécuritaire et social. Michel Joseph.
Faustin Archange Touadéra sera immédiatement confronté à l'urgence de redresser un pays en ruine et profondément divisé par 3 années de violence intercommunautaire. Formellement, la transition n'est cependant pas totalement achevée. Les Centrafricains ont certes adopté par référendum la constitution de la 6e République et élu leur président, mais le Parlement n'est toujours pas en place. Le second tour des législatives plusieurs fois reporté, est désormais prévu jeudi, le lendemain de l'investiture du chef de l'État. La Centrafrique, un des pays les plus pauvres de la planète, malgré son potentiel agricole et minier, est resté coupé un moment de ses recettes du fait de sa mise en coupe réglée par les groupes armés qui se sont érigés en douaniers cadres des impôts. Dès l'annonce de son élection, M. Touadéra avait assuré mesurer le poids de la charge qui l'attend.
Au Cameroun, de nombreux appels, notamment des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais parti au pouvoir, sont lancés à l'endroit du président Paul Biya lui demandant d'organiser une élection présidentielle anticipée avant 2018. Des appels qui divisent l'opinion et surtout qui suscitent l'indignation de l'opposition. Au micro de John Lindon, Célestin Bedzigui, vice-président de l'UNP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, nous donne sa réaction.
Je pense que la voie qui s'imposera pour l'opposition camerounaise, pour qu'elle garde sa crédibilité et surtout pour qu'elle soit garante du respect de la Constitution, cette voie-là est unique. C'est un boycott. Un tel boycott priverait M. Biya de la légitimité dont il peut se prévaloir au terme d'une élection présidentielle.
Alors, quelle fin politique voyez-vous pour le président Biya? Une fin telle que celle de Blaise Compaoré ou celle de Boni Yayi?
Je pense que nous sommes beaucoup plus proches d'un schéma ou d'un processus à la Burkinabé, c'est-à-dire où un chef d'État essaie de s'accrocher au pouvoir.
Monsieur Bedigui, qu'elle soit anticipée ou qu'elle soit maintenue en 2018, serez-vous candidat à une élection présidentielle au Cameroun?
D'ici le terme normal, nous aurons le temps de réfléchir, mais en cas d'anticipation, nous allons être du temps du boycott.
Célestin Bedzigui, vice-président de l'UNDP, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, joint à Yaoundé par John Lindon. L'actualité dans le reste du monde hors d'Afrique, attentat de Bruxelles, le bilan des attaques du 22 mars dans la capitale belge s'élève maintenant à 35 morts, 4 blessés graves ayant succombé à l'hôpital des suites de leurs blessures. Par ailleurs, les policiers belges cherchent toujours à identifier le troisième suspect de l'attaque à l'aéroport de Bruxelles à 20. La vidéo de cet homme inconnu jusqu'à présent est maintenant sur le compte Twitter de la police. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Ah.